fit dégringoler, du moelleux édifice. Il s'en fut à la porte derrière laquelle Marie-Antoinette Grigorieff riait déjà. Dieu qu'il était étonnant, avec ses vêtements noirs, sa barbe naissante et ses grands yeux verts qui lui mangeaient le visage. Il eut du plaisir à la voir et sourit. Elle remarqua que deux fossettes enfantines creusaient ses joues. Au lieu de la laisser entrer, ce fut lui qui sortit sur le perron. Alors, le prenant familièrement par le bras, elle lui fit faire une ou deux fois le tour du bassin éclaté. « Cela vous réveillera. » Elle ne parlait pas beaucoup, mais comme un être de gaieté s'imposait avec bonne grâce au décor et à son unique habitant, sans néanmoins rien céder d'elle-même. Devant cette façon d'être de plein pied avec ce qu'on ne connaît pas, ses manières décidées, quelquefois brusques, Augustin se sentait pesant et gauche. Elle était si jeune pourtant. Pour se défendre, il accentua ses traits de comportement. Sans rien perdre de sa bonne humeur, il répondit à peine et regarda beaucoup. En repartant, elle lui tendit la main. « Nous sommes de vieux amis, n'est-ce pas ?» Quand il l'aida à remonter en voiture, il respira l'odeur du foin coupé mêlée à celle du musc. « Mais si vous ne venez pas, je serai votre ennemi. C'est pour vous que je donne cette fête. » Augustin promit de venir. Peu après, Charles-Pierre reçut un télégramme posté de Dun-sur-Oron, département du Cher. On y lisait « Ce soir, je vais au bal. » « Augustin, le libraire répondit, on te mènera à l'eau, mais sans te laisser boire. Pour finir, ils te trouveront une paysanne, Charles. » Puis, une heure après, pris de remords, il ajouta, « Amuse-toi, Charles. » Il n'était pas habituel qu'un monsieur de la ville s'attablât entre les platanes de la place, derrière l'église comme un charretier. Le village savait qu'un chirurgien de Paris avait acheté le second château des Bussy, mais par chance personne n'aurait su le reconnaître. Le cafetier roula vers le centre de la place un tonneau qu'il mit en perce au pied d'une estrade. Un concours de chiens devait avoir lieu l'après-midi et l'émeute commençait d'arriver. Les chenils étaient disposés en demi-cercle, des pancartes donnant l'origine et le lieu d'élevage. Pierre se promena devant les grillages, les mains dans le dos. Les chiens anglo-normands du Raleigh Chaudenay étaient de bien belles bêtes à l'air féroce. Les chiens de l'équipage du Noix de chasse sous terre rasaient le sol. Pierre se souvint des gros rats de l'assistance publique. À présent au moins, il pourrait imposer au service les règles d'hygiène auxquelles il tenait. Les sœurs hospitalières ne l'arrêteraient pas. Ce serait déjà une belle victoire de refouler les rats dans les magasins et dans les caves. Il se mit à rêver de l'équipage du Noix lancé dans les sous-sols de la salpêtrière, suivi d'une meute d'infirmiers brandissant des balais. À Villers où Augustin déjeuna, deux jardiniers ratissaient le gravier blanc des allées. La maison avait conservé l'air italien de ses débuts, avec l'ordonnancement rigoureux des étages dominant la plaine. Les toits plats, les fausses colonnes et les balustres en tuffeau civilisaient un peu ce paysage où l'on voyait des bleus du Maine broutés, quelques restes d'herbes chaudes entre les peupliers. L'automne était encore clément, et les jardiniers retardaient le moment de ranger dans la serre les grandes conques en terre cuite de Florence qui supportaient des citronniers, tant elles étaient lourdes. L'été durait comme le jour des Orientaux, et c'était bien un été d'ailleurs, un été sobre et calme du sud. Znacenaël de Bussy, vêtu d'un vieux complet de gabardine claire, coupait les dernières roses. Elle remplissait les paniers que sa mère utilisait autrefois. Ici, il paraissait plus simple et plus gai. Il avait le visage apaisé d'un homme qui a décidé, une fois pour toutes, d'arrêter les pendules. Ils déjeunèrent sur la terrasse, à l'arrière de la maison, buvant du vin de champagne à la glace et regardant à leurs pieds le vallon doré où quelques arbres griffères n'avaient pas perdu leur teinte conquérante. Un léger vent d'ouest rabattait vers Saint-Denis les fumées des derniers feux d'après la moisson. Znacenaël, qui voulait tout connaître des arrangements qu'il avait prévu de faire à Bussy, Pierre répondit qu'il n'avait rien décidé encore et que d'ailleurs, il ne lui déplaisait pas de vivre dans un campement. Pour lui qui ne s'était jamais fixé nulle part, c'était le plus sûr moyen d'entretenir l'illusion qu'il conservait toute sa liberté, qu'il pourrait rompre cet établissement-là comme les autres et reprendre son maigre bagage et s'en aller ailleurs. Bussy le félicita, lui rappelant le fameux sortilège, mais Augustin dut bien s'avouer qu'il en était un autre qu'il redoutait bien davantage. Pour la première fois, il le nomma clairement, en pensée tout au moins. Ils se promenèrent dans le parc en fumant des cigares. Nathanaël décrivit ses plantations, le sapin de forêt, originaire de l'Himalaya, dont le cône violet brunit en mûrissant pendant l'hiver, et le cyprès du Mexique qui ressemble, en plus large, à celui des Balkans. Il aurait voulu que son parc fût aussi beau qu'un cimetière marin de France ou d'Italie. Il y plantait de ces arbres sombres qui retiennent la poussière du sol. Augustin, qui distinguait à peine le chêne du hêtre, le suivait avec patience. Bussy était un légendaire amateur de jardin. Combien de fois Augustin avait-il entendu son père vanter la science inépuisable de son vieil ami? Et jamais il n'ennuyait, parce qu'on savait que c'était d'un art qu'il parlait, et non d'une marotte, d'un art qui permettrait comme les autres de mieux exercer la vie, et peut-être de conquérir un peu de sérénité. Nathanaël évoqua Raffnaud de Lille, le botaniste de l'expédition d'Égypte, passionné de lotus, les voyages de Bonpland en Amérique du Sud en compagnie de Humboldt et d'Adanson qui découvrit le baobab. Ils parcoururent en esprit les serres de la Malmaison au temps de leur splendeur, quand elles abritaient plus de 2000 espèces, le tabac ondulé et les premières graines de dahlia. Le phlox d'Amérique du Nord intrigua Pierre, qui fut déçu d'apprendre que la plante est commune. Tous deux s'enchantèrent de l'ixia d'Afrique du Sud et du cinéraire hybride avant de revenir lentement pour le café. Café, ce bois sans sucre debout très chic, fait croire qu'on a vécu en Orient, cita Nathanaël dans un sourire. Et Pierre assis sucra son café avec emphase, tout était bien.